Allons avec le thème de ce soir, le sujet général de la prophétie. Et nous allons essayer d'étudier un certain nombre de paragraphes d'un texte de Maïmonide qui parle de ce problème. Alors, on va attendre 2 minutes que ça. Peut-être qu'il faudrait un peu ouvrir pour qu'il y ait clair. Et nous aurons donc surtout à étudier comme texte d'illustration un enseignement de Maïmonide concernant la distinction qu'il faut faire entre le phénomène de la prophétie dans son authenticité profonde, dans son identité même, et que nous aurons donc à définir, et puis d'autre part, l'ensemble des phénomènes qui sont racontés dans les textes, et d'ailleurs les conceptions classiques, même populaires, de la prophétie, les relient ce genre de phénomènes, qui sont surtout les signes et les miracles qui sont dans la capacité du prophète, ou qui s'attachent au fait même de la prophétie, si vous voulez. Et je vais essayer donc d'analyser cela en 3 points. D'abord, rappeler la théorie générale de la prophétie selon Maïmonide. Ensuite, prendre ce point particulier qui se trouve au chapitre 8 des textes que l'on vous a distribués, au chapitre 8 des Ilkhot Yesod et Torah, et où Maïmonide va s'attacher à distinguer le phénomène proprement dit de la prophétie, d'autre part, des phénomènes annexes. Nous verrons d'ailleurs, non pas tellement secondaires, mais des phénomènes annexes et qui sont à côté à propos des prophètes, c'est-à-dire leur capacité de miracle et leur capacité de donner des signes quant à la nature différente de ce qu'ils représentent dans l'identité humaine. Et puis ensuite, si nous avons le temps, nous reviendrons sur un autre texte de Maïmonide qui se trouve dans les Shmona Prakim et où il va nous indiquer le cas particulier de la prophétie de Moïse. J'espère que nous arriverons à remplir ce programme. Enfin, nous rattachons donc cela, à partir de maintenant, aux études que nous avons eues pour ceux qui étaient là dimanche matin. Ce sera une étude de texte, mais qui aura une introduction, une étude d'un texte très différent de nature que le texte que nous avons essayé de lire hier dans la Gemara. C'est un texte de théologie et non pas un texte talmudique. Mais malgré tout, hier, nous avons peut-être eu, si on y a réussi, l'exemple de ce que l'exégèse traditionnelle d'un texte talmudique rattaché à la prophétie, au contenu de sagesse de la prophétie, montre comme caractère spécifique de cette pensée de la tradition juive, qui n'est pas seulement un ensemble de cohérences, d'évidences ou de postulats de nature intellectuelle dans ces catégories profondes. Nous avons étudié cela, je pense, lundi soir. Puisque tout postulat de départ réclame la définition d'abord de l'identité qui s'exprime dans telle ou telle cohérence intellectuelle. Eh bien, à l'introduction de Maïmonide, je voudrais quand même rappeler le fait que dans la théologie juive, nous trouvons toujours, à propos de chaque problème, un certain nombre de méthodes d'approche complémentaires dans les différentes écoles de la même question, lorsqu'il s'agit d'une question qui n'est plus expérimentable dans le temps historique du monde où nous nous trouvons. Et c'est centralement le cas pour la prophétie. Nous savons que la Bible nous parle d'un monde où la prophétie était une donnée d'expérience immédiate et concrète. Mais le monde dans lequel nous nous trouvons, dans le temps d'histoire qui se nomme le judaïsme, et qui commence à peu près il y a 2400 ans, au temps de la fin du premier exil du premier royaume de Juda, eh bien, nous nous trouvons dans un temps où le phénomène de la prophétie, nous le connaissons, si j'ose dire, par oui-dire à travers les textes, en tout cas par un acte de fidélité à ce qu'a été la connaissance des Hébreux. Mais pour le temps des Hébreux, pour le monde des Hébreux, la prophétie était une réalité expérimentale. Et par conséquent, si nous nous trouvions dans le temps des Hébreux, il n'y aurait pas à avoir ce phénomène dont je vous parle chez les théologiens, d'écoles de formulations différentes, bien que complémentaires. Dans ce cas, celle de Judas Lévi ou celle de Maïmonide. Dans le fond des choses, ils visent la même mémoire, la même connaissance par la mémoire. Mais étant donné qu'ils parlent à une communauté qui se trouve dans un temps historique et d'expérience historique différent, et pour notre problème, un temps sans la prophétie, c'est cela la différence entre judaïsme et hébraïsme, si vous voulez, dans le sens strictement historique et étymologique, et nous espérons que le troisième stade, que l'on pourrait appeler Israël, ça y est, je recommence, israélisme, eh bien, là, de nouveau, il y aura la prophétie. Et c'est sûr que cela arrivera inévitablement, puisque les prophètes des Hébreux ont dit qu'après le temps de l'exil recommencera la prophétie. Mais quoi qu'il en soit, si nous trouvons cette divergence d'approche de définition chez Judas Lévi et chez Maïmonide, comme nous allons le voir ici, ça doit être expliqué. Et cela est expliqué par, en général, par une différence d'ordre pédagogique essentiellement, beaucoup plus que par une différence d'ordre de sagesse, de contenu, de connaissance. En ce sens que, à partir du moment où nous devons passer par une identification par la mémoire, pour comprendre un phénomène dont on n'a pas expérience dans le monde extérieur, c'est-à-dire phénomène de prophétie, révélation, d'un ordre de réalité autre que celui auquel nous sommes habitués par le spectacle du monde dans lequel nous vivons. Et il faut se rappeler que la Bible a annoncé cela, qu'un temps viendrait où la prophétie cesserait comme expérience objective, et c'est là qu'effectivement commence le temps du judaïsme, de la fidélité par la mémoire à ce qu'a été le monde de l'identité des Hébreux. C'est bien clair jusqu'à présent. Nous avons eu d'autres fois une analyse plus détaillée de ce problème, mais je le rappelle pour situer ce cas. Eh bien, il est inévitable que nous ayons différentes écoles, non pas parce qu'elles disent des choses différentes de ce qu'est la prophétie, mais parce qu'elles emploient une stratégie pédagogique différente pour faire identifier ce dont il était parlé par tel ou tel tempérament humain du monde contemporain. Puisqu'effectivement, s'il s'agit d'une connaissance qui n'est identifiable qu'à travers une certaine identité, il faut tenir compte du fait qu'une identité de base a toujours autant de manières, par tempérament, autant de manières d'exister. Et que la formulation de telle école pourrait être identifiée par tel type de tempérament et non pas par un autre. Et donc c'est un bien que nous ayons tout un éventail d'écoles, du point de vue de la transmission, du point de vue de la formulation de ce qui veut être dit. Mais les grands maîtres enseignent toujours que, quelle que soit la différence dans la forme employée par le langage de telle ou telle école, eh bien le fond est toujours identique. Ils parlent de la même chose. Il faut avoir des yeux d'aigle, comme ceux de Maïmonide, qu'on a nommé l'aigle de la synagogue. Il faut avoir des yeux perçants pour voir qu'effectivement, ce que Maïmonide dit, c'est la même chose que ce que Judas Lévi dit, surtout lorsqu'on entre dans les études de détail. Mais c'est pour ça que nous avons besoin toujours de la référence à la tradition orale qui nous permet effectivement d'identifier derrière le vocabulaire employé ce dont il est parlé. Bien, j'ai un peu allongé l'introduction pour vous permettre de Bien, très brièvement, voici quelle est la thèse de Maïmonide, de Judas Lévi d'abord, telle que nous la trouvons surtout dans le Kuzari. Je ne vous parlerai pas du Kuzari, pour lui-même, ça ne prendrait trop de temps, mais enfin, il y a dans un des dialogues du Kuzari un enseignement de base de Judas Lévi qui est extrêmement important et qui dit ceci. Pour comprendre le phénomène Israël, et surtout pour comprendre le phénomène de l'identité d'Israël, et ce terme d'Israël désigne simultanément et tout à la fois ce qu'a été l'Israël des Hébreux, ce qu'a été le peuple juif, ce qu'est de nouveau le peuple juif dans le temps contemporain. Tout ceci renvoie à un phénomène d'identité que la Bible désigne, une manière d'être homme, comme je vous dis souvent, que la Bible désigne par ce terme Israël. Et lorsque Judas Lévi a voulu rendre compte dans son enseignement dans le Kuzari, pourquoi il arrive que, quelles que soient les croyances, en fin de compte, qu'elle soit celle de l'islam, qu'elle soit celle de la chrétienté, ou même d'autres perspectives de croyance, on s'est référé à ce qu'a été la mémoire d'Israël, à ce qu'a été la tradition d'Israël, c'est parce que c'est en Israël que s'est produit le phénomène de prophétie. C'est une première donnée importante. Et pour rendre compte de ce phénomène d'identité, il emploie l'analyse suivante. Et il veut nous faire comprendre que la spécificité d'Israël n'est pas une parmi les manières d'être homme, mais qu'elle est à l'intérieur de l'identité humaine une sorte de récupération de l'essentiel en un centre. Et il l'explique de la manière suivante. Il y a d'abord une échelle des êtres, telle qu'on était habitué à l'exprimer, à la désigner au Moyen-Âge. L'être que l'on appelle, nous, l'être inanimé. En hébreu, cela se dit le « domem ». Et pour dire l'être inanimé, l'hébreu dit l'être silencieux, « domem ». En plus, c'est très joli d'ailleurs. Et puis, après, le stade, c'est le « tsomeach », Le deuxième stade, c'est le végétal, où il y a déjà l'apparition du nefesh. Du nefesh, terme qui est traduit en français, tant par le souffle qui fait vivre, mais c'est la personne. Et puis, dans le sens de la parole, la personne parlant. Le fait que pour dire la vie qui apparaît même au niveau du végétal, on emploie le terme de nefesh tzomachat, tzemach, dans le sens de végétation. Il y a d'ailleurs une expression hébraïque qui, pour dire le murmure, emploie le même terme que pour dire la végétation. Ce n'est pas au niveau poétique seulement le siyah. Ce n'est pas seulement le murmure que la végétation fait quand le vent la traverse, par exemple, mais c'est le fait que, comme si déjà au niveau du végétal, la parole enfouie dans le monde créé, la parole enfouie dans la terre, si vous voulez, commence à s'exprimer au niveau du végétal, et que ce qui s'exprime là déjà, c'est l'identité de la personne qui cherche à germer. Et vous voyez que c'est, semble-t-il, il y a une cohérence du vocabulaire intentionnel, en tout cas une cohérence. L'être inanimé, c'est l'être silencieux. Et puis voilà qu'apparaît le végétal. Ça veut dire que l'être commence déjà à parler. Il ne dit rien, on n'entend pas, on ne comprend pas, mais ça veut dire que c'est déjà dans cette catégorie-là que les mots s'expriment pour dire l'échelle des êtres. Et plus haut, la troisième niveau, c'est le chai, le vivant. Le vivant. Et là, le terme ne se réfère ni au silence, ni à la parole, le vivant. Et on apprend que tout vivant, c'est-à-dire tout être vivant, ce que nous appelons les animaux, aurait dû déjà parler. C'est pourquoi on dit que ce fameux mystère de l'ânesse de Bilam est rattaché à là par Judas Lévi. C'est pas étonnant qu'une ânesse ait parlé. Ce qui est étonnant, c'est que les autres animaux n'aient jamais parlé. Voilà à peu près comment il faudrait le comprendre. C'est-à-dire que déjà, au niveau du chai, le nefesh, et c'est déjà nefesh chaya, et que vraiment nefesh vivant, et que par conséquent, déjà, il aurait dû avoir parole, mais il n'y a pas eu parole. Et que la parole n'a germé que dans une partie de l'être vivant, le hayam daber, qui est la définition de l'homme, le vivant parlant. Et Judas Lévi continue cette analyse en disant, et à l'intérieur du hayam daber, il y a émergence d'une autre manière d'être, qui est le navi. C'est-à-dire non seulement celui qui est capable, le vivant capable de parler, mais le vivant capable de parler la parole par excellence, nous dirions la vérité, pour parler en termes philosophiques, ou la parole de Dieu, pour parler en termes théologiques, mais enfin, pour parler la parole par excellence, celle qui se cherchait à travers tous ces niveaux de l'être. Et que ce phénomène de la névoie apparaît en Israël. Et que la différence entre Israël et les autres hommes est du même ordre que la différence entre les hommes, Israël y compris, et les animaux, de la même différence qu'il y a entre les animaux et les végétaux, ou les végétaux et les silencieux, mais de ce même ordre. Que ce phénomène de l'homme qui parle la prophétie, le Navi, est une mutation de même nature que celle qui a fait apparaître l'homme à l'intérieur de l'animal. Bien sûr, ce n'est pas visible. Lorsqu'on voit un prophète, enfin, je veux dire, en tout cas, nous n'avons pas expérience, mais j'inverse la phrase. Si nous voyons un prophète, alors nous verrions qu'il est autant homme chez l'homme que l'homme est homme chez l'animal. Différent par rapport à l'homme que l'homme est différent par rapport à l'animal. Enfin, je suis allé très vite, mais il est important de voir qu'effectivement, dans cette première cohérence, le phénomène de la prophétie apparaît comme une mutation et est relié à la capacité de dire la vérité du monde. Dans le langage de Maïmonide, et cette introduction, cette deuxième introduction que je vous cite maintenant, se trouve dans le Moré Nebuchim, dans les deux chapitres que Maïmonide consacre à la prophétie. La thèse de Maïmonide est qu'en principe, tout homme pourrait être prophète. Qu'il n'y a pas là, si vous voulez, une spécificité, et il semble, je vais encore expliquer Maïmonide, et il semblerait qu'il y a contradiction entre les deux thèses. En fait, il n'y a pas contradiction. De la même manière que, si nous poussons plus loin ce raisonnement, ça veut dire que tout animal aurait pu être vivant parlant, et pas seulement vivant. Mais que voilà, il est arrivé que seulement une manière d'être animal, et ça ne veut pas dire bête, la bête, behema, mais une manière d'être nefesh chaya, a été vraiment nefesh chaya, c'est-à-dire l'homme. Ce que d'ailleurs les commentateurs du récit biblique de la création de l'homme indiquent, l'homme devenu personne vivante, ou âme vivante dans certaines traductions, mais ce n'est pas assez exact, personne vivante, Les commentateurs se basent sur la traduction araméenne d'Onkelos, que Rashi reprend en disant, ça veut dire « Ruchame Malela », en araméen, ça veut dire « souffle de parole ». Que ce qui caractérise l'homme chez l'animal, par rapport à l'animal, c'est la parole, plus que la pensée, et que ce qui caractérise le prophète par rapport à l'homme, c'est effectivement la parole au second degré, c'est-à-dire la prophétie, la parole de vérité. Et nous verrons tout à l'heure quel est le contenu du projet de la prophétie, mais c'est surtout dans son identité qu'il faut le définir. Eh bien, il n'y a pas contradiction par ce principe, qu'effectivement, tout homme aurait pu devenir Israël, si cette mutation avait réussi ailleurs, aurait pu, théoriquement. Mais voilà, cette mutation est apparue en Abraham, et elle a été, si j'ose dire, cultivée dans les engendrements pour aboutir à l'identité d'Israël. Et c'est frappant de voir que la Torah emploie pour la première fois le mot de Navi, prophète, en parlant d'Abraham. Dans un épisode qui serait trop long de ramener ici, mais lorsque Dieu se révèle par un phénomène de révélation à d'autres types humains qui étaient vivants, contemporains d'Abraham, pour parler d'Abraham, Dieu fait comprendre aux autres que c'est Abraham qui est le Navi. Qui Navi vous ? Parce que c'est lui qui est le Navi. Et Judas Lévi a beaucoup insisté sur ce phénomène. Nous allons retrouver ici l'enseignement de Maïmonide, mais je voulais surtout éclairer ça de la manière suivante. On croirait que ce sont des actes de foi, qu'en fait il n'y a jamais eu vraiment un phénomène aussi différent que celui de notre manière d'être homme. Le prophète, eh bien, c'était peut-être quelqu'un d'inspiré, mais par façon de parler, parce que nous vivons dans un temps où nous n'expérimentons pas la présence du prophète. Nous avons la trace de cela dans les textes mis par écrit de la prophétie, mais il suffira de prendre au sérieux ce que ces textes disent d'eux-mêmes pour comprendre que cela dépasse un objet de croyance. C'est la référence par une mémoire à une manière d'être qui a cessé d'être spectaculaire, si vous voulez, mais qui n'a jamais complètement disparu. La Gemara dit, si Israël ne sont pas des prophètes, ils sont en tout cas fils de prophètes. Im enam nevi'im, bnei nevi'im hem. Et dans ce langage, bnei nevi'im, ça ne veut pas dire simplement fils de prophète, dans le sens petit de prophète, enfin de un tel fils d'un tel. Bnei nevi'im, ça veut dire ils ont reçu l'héritage d'enseignement disciples de prophètes. Et ce phénomène de la prophétie, lorsqu'il s'est arrêté, au temps de la destruction du deuxième temple, non seulement s'est arrêté partout à la fois, ce qui ouvre le temps de la modernité dans la culture humaine, selon nous, il y a 2000 ans, mais il ne s'est pas arrêté brusquement, il s'est arrêté par degrés, et les degrés inférieurs, si vous voulez, continuent à être expérimentables, mais à l'échelle individuelle. Je veux dire que cette capacité d'être relié avec la source de la vérité, nous retrouverons des termes plus précis tout à l'heure dans les textes, eh bien, elle a cessé de pouvoir être formulé à l'échelle universelle, ce qu'était le niveau d'expression de la parole du prophète. Lorsque le prophète parlait, il parlait pour tous, ce qu'il disait concernait tous à la fois. Vous avez remarqué cela, le texte biblique ne s'adresse pas à tel ou tel tempérament. Il s'adresse à Adam, à l'identité humaine dans la totalité de ses dimensions et de ses perspectives. Mais après la fin de la prophétie à cette échelle universelle, ce phénomène a continué parce que nous appelons le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, l'Esprit de sainteté, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le davar, il n'y a plus la parole du Kodesh, mais il y a le Ruach de ce davar. Si j'ose dire, il n'y a plus, pour employer une expression biblique, l'huile parfumée elle-même, mais il y a le parfum de l'huile qui est resté. Et si vous voulez, pour employer une autre expression que nous avions employée au temps de Targum, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'était Targum, Zichrono Livracha, mais il n'y a plus la voix, mais il y a encore l'écho de la voix. De toutes les façons, il n'y a plus la parole, mais il y a la trace de la parole, telle qu'elle peut de nouveau être réidentifiée par le Ruach, par l'inspiration. Et c'est le phénomène de la Kabbalah. C'est le phénomène de ce qu'on appelle les Mekoubalim. On traduit les Kabbalistes, mais enfin, gardons le terme hébreu, les Mekoubalim. C'est du même ordre. Vous vous rappelez, dans le cours que nous avons eu dimanche matin, Joël a expliqué qu'effectivement, que lorsque la Gemara parle des Nevi'im et des Ketuvim, c'est-à-dire des écrits prophétiques, en dehors de la Torah, dans l'ensemble du Tanakh, elle exprime cela en disant « Divrei Kabbalah ». C'est-à-dire, effectivement, ce phénomène de la prophétie est resté dans l'expérience que l'on appelle l'expérience de la Kabbalah. Mais cela est devenu, comment dire, restreint à l'échelle de la capacité d'identité de la personne qui est le Mekoubal et de sa Sviva, et de son groupe, et de son école. C'est-à-dire, ça ne peut concerner qu'un tempérament qui comprend le langage implicite de ce qui est dit. Tandis que le Navi était à l'échelle universelle, et c'est cela la différence. Bien. Et bien donc, je reprends Maïmonide. Selon Maïmonide, tout homme est capable de prophétie en principe. Il se rattache à un enseignement important du Talmud, qui dit que le premier homme était prophète, non pas en tant qu'il était homme plus prophète, mais que c'était son identité d'emblée d'être en tant qu'homme Navi, à l'échelle vraiment de l'homme authentique qui est le Navi. Selon Maïmonide, et c'est au fond la phrase la plus importante de sa théorie, selon Maïmonide, ce qui empêche, ce qui fait méritza, ça veut dire cloison, ce qui fait opacité entre la vision directe, totale de la vérité, non pas seulement de la vérité du monde, mais à travers la vérité du monde, de la vérité de Dieu, c'est-à-dire du créateur du monde. Mais gardons, si vous voulez, provisoirement ce terme de la vérité en général, cela implique toutes les manières d'exprimer ce dont nous voulons parler, et en fin de compte surtout de la possibilité de compréhension de la véritable destination de l'identité humaine et de son histoire, eh bien, c'est ce qui ferait mérite ça entre chacun, opacité entre chacun et l'objet de la prophétie, c'est l'inadéquation morale. Si l'homme arrivait à redevenir adéquat, pour employer ce terme, à l'authenticité morale, d'emblée il serait prophète. Voici ce qu'est la théorie de la... selon Maïmonide, la théorie de la prophétie. C'est-à-dire que la capacité d'être l'authenticité humaine dépend, et nous nous trouvons de nouveau en plein cœur de la théorie du judaïsme en général, dépend de l'adéquation morale avec la vérité de l'homme. Mais Maïmonide a une doctrine spécifique de ce qu'est l'adéquation morale. Nous sommes toujours dans l'introduction. Il nous dit ceci. L'homme, par rapport aux valeurs morales, est, et on peut en rendre compte, est sollicité par l'attirance des extrêmes. Selon Maïmonide, quelles que soient les tendances aux valeurs et quelles que soient les valeurs qui nous sollicitent, le mal vient lorsque on va dans un sens exagéré par rapport à telle ou telle valeur. Et que la vérité morale, c'est l'équilibre de ce que lui nomme le Derechem Tzai, c'est-à-dire la voie moyenne. Chaque fois que l'homme s'adonne à une exagération dans le sens d'un extrême, katsé, l'extrême d'une valeur, alors il quitte cet axe de l'authenticité morale. Et cela signifie qu'il quitte l'axe de l'authenticité anthropologique même, et par conséquent qu'il devient de moins en moins capable de prophétie. Pour pouvoir comprendre la vérité et la dire, eh bien il faut être déjà capable de cet équilibre du Derechem Tzai par rapport aux valeurs morales. Et voilà donc comment Maïmonide explique, premièrement, que tout homme en principe pourrait être Navi, et ce qui empêche effectivement l'homme de l'être. Il y a une difficulté que, personnellement, je trouve assez insurmontable, c'est que, malgré tout, et que peut-être la théorie de Judas Lévi explique plus, malgré tout, il y a une réalité historique qui fait que, à un certain moment, le phénomène de la prophétie a cessé de façon en tant que réalité objective. Et alors, ça voudrait dire que, depuis ce temps-là, aucun homme n'est capable d'être moral, et qu'il n'y a jamais eu d'être moral, puisque depuis ce temps-là, la prophétie ne serait pas à part. On pourrait répondre, mais c'est une réponse pas suffisante peut-être à mon sens, on pourrait répondre au nom de Maïmonide ceci, c'est qu'en réalité, il y a eu toujours des hommes capables de l'authenticité morale, et ils étaient prophètes, mais que leur génération ne les a pas décelés, ne les a pas entendus, ne les a pas diagnostiqués, et qu'il s'agit de cela dans le phénomène de la Kabbalah, dans le phénomène de ce qu'on appelle la Kabbale. Et voyez jusqu'où on va dans le paradoxe. Faire dire à Maïmonide que ce sont les kabbalistes qui sont les prophètes. Eh bien, voilà donc, au bénéfice, si vous voulez, de ces deux brèves introductions, Nous allons, si vous le voulez bien, aborder d'abord le texte du Perek Shmini, c'est-à-dire du 8e chapitre que vous avez à la page Lamed Gimel, c'est-à-dire à la page 33. Alors, c'est un texte beaucoup plus facile à suivre qu'un texte de Gemara, bien entendu. Nous allons le suivre simultanément en hébreu et en français. Perek Shmini, c'est-à-dire chapitre 8. Je pense qu'il y a suffisamment de textes en tout cas. Bien, faites pas sauter les textes. Donc, comme sujet de ce texte, le rapport entre le signe miraculeux, le signe du miracle, et d'autre part, l'habilitation du prophète comme tel. Et c'est un problème important, d'autant plus que la Torah elle-même a prévu que l'un des signes auxquels on reconnaît qu'un prophète est prophète, et le signe principal, c'est si ce qu'il dit arrive, bien évidemment. Mais même si cela n'arrive pas, on peut expliquer pourquoi cela n'est pas arrivé, c'est un signe aussi que ce qu'il a dit était vrai. Mais d'autre part, un des signes qu'il est prophète, c'est qu'il est capable de montrer que le monde est autre que la manière dont les hommes le voient, et de faire des signes qui signifient, enfin qui indiquent qu'il est un homme de nature différente que les autres hommes. Mais cependant, Maïmonide va intervenir sur ce sujet pour nous expliquer que ce n'est pas du tout ce deuxième genre de signe qui habilite vraiment le prophète, et nous allons prendre là l'exemple de Moïse lui-même. Mon cher Abénou, Moïse notre maître, l'Oréminou Bo Israël, Israël n'a pas eu foi en lui. Ça ne veut pas dire ici que Israël n'a pas eu foi en ce que Moïse disait, mais que Israël n'a pas eu foi que Moïse était prophète. Ni Penehaoto Tchaasa, à cause des signes qu'il a fait, à cause des prodiges, si vous voulez, qu'il a fait, chez Hama Amin Alpiaoto, parce que celui qui croit à cause de signes, celui qui croit à cause de manifestations miraculeuses, Yesh Belibo Dofi, garde dans son cœur un doute. C'est là un principe de méthode extrêmement important. On pourrait le dire sous la forme suivante. Au fond, les raisons de croire, c'est des raisons de douter. Il vaut mieux être sûr. C'est-à-dire, s'il y a, un intermédiaire à l'évidence, alors c'est que l'évidence n'est pas assez forte par elle-même, et que par conséquent, bien que l'on ait eu le signe intermédiaire, le fait même qu'on ait eu le signe intermédiaire montre que la foi n'est pas suffisante. Comme on pourrait dire en citant la Bible, « Haï palem Hashem d'abar ». Ça veut dire, habituellement, dans la traduction que nous donnons de ce terme, quand Sarah a douté que peut-être à son âge, alors l'ange lui dit, c'est l'ange qui lui dit, oui, « Haï palem Hashem d'abar ». Est-ce que quelque chose est trop miraculeux pour Dieu? Mais c'est difficile comme expression. Qu'est-ce que ça veut dire que les choses seraient moins ou trop ou plus miraculeux pour Dieu? Oui, vous comprenez, l'évidence de l'étonnement ici est difficile. Haï palem Hashem d'abar, ça va de soi, alors pourquoi le dire? Mais on peut le lire autrement. Haï palem Hashem d'abar, ça veut dire, est-ce que Dieu a besoin de faire un miracle? Haï palem Hashem d'abar, ça veut dire, est-ce que Dieu, l'ange dit à Sarah, tu vas avoir un enfant. Alors ça voudrait dire, il faut un miracle pour ça. Première lecture, et est-ce qu'un miracle de ce genre est difficile pour Dieu? Mais deuxième lecture, est-ce que tu crois vraiment que Dieu a besoin de faire un miracle pour te donner un enfant? C'est très important pour vous. Ce que dit ici le texte, celui qui croit à cause des signes, yesh benibo dofi. Il y aura toujours en son cœur un doute. Chez Efchar, chez Yaaseaot, Belat, Vechishu. Quel doute? Il serait possible que ce signe, ce prodige a été fait par le biais de la magie, ou nous dirions aujourd'hui, par une certaine technique encore inconnue des autres hommes. Et que c'est tout simplement qu'il aurait la technique et non pas prophétie. Est-ce que vous voyez déjà la différence de ces deux lignes? Et là, Kol Haotol Tcha'asa Moshe Bamidbar, les fiat sorer atzaam. Mais en réalité, tous les miracles que Moïse a fait dans les déserts, c'était parce que d'autre part, il y avait aussi une nécessité. Prenons par exemple la question que nous avons étudiée vendredi soir, pour ceux qui étaient là, le problème de faire sortir de l'eau du rocher. Eh bien, le fait que Moïse ait fait sortir de l'eau du rocher n'habilite pas la loi de Moïse. C'est Moïse, capable de la loi de Moïse, qui d'autre part était capable de la révélation de l'eau de Moïse et d'autre part était capable de faire sortir de l'eau du rocher. Mais s'il a fait sortir de l'eau du rocher, c'est parce qu'il fallait donner à boire à Israël. Et ce fait-là n'habilite pas Moïse en tant qu'il est le porteur de la révélation de vérité. Voilà ce que Maïmonide va jusqu'à dire. C'est-à-dire que c'est un autre problème de croire s'il est vrai que Moïse a fait sortir de l'eau du rocher ou pas. Ça, c'est une autre question. Mais la foi en la vérité de la parole du prophète ne passe pas par là. Et si le prophète fait un signe, c'est pas pour prouver qu'il est prophète, c'est parce qu'il est nécessaire, pour X ou Y raison, que parce qu'il y a pikuach nefesh, parce qu'il y a nécessité. Alors il y a suspension de l'ordre habituel des lois auxquelles nous sommes habitués, de l'ordre de la nature, et apparition déjà de cette capacité d'être qui va avec la personnalité du prophète. Ça veut dire que le prophète est capable de faire sortir de l'eau du rocher, parce qu'il est prophète. Mais ce n'est pas parce qu'il est capable de faire sortir de l'eau du rocher qu'il est prophète. Vous voyez à peu près le raisonnement. Et là, kola oto cha'asa Moshe bamidbar, le fiat sorer asa'am. C'est parce qu'il y avait une nécessité qu'il les a fait. Lo lehavir e'ayar la nevoa. Et pas pour les présenter comme preuve de la prophétie. Haya tsarich le'ashkiar et Mitzrayim, et à Mitzrayim. Il était nécessaire de le'ashkiar. De, c'est pas noyer, de plonger, oui, les Égyptiens dans le canal, dans la mer. Alors, Kara et Ayam, c'est la raison pour laquelle il a déchiré la mer, mais Itzlilam Betocho, et qu'il les a noyés. En fait, ça veut dire transformés en ombre. Nistalchou les Mazon, ils ont eu besoin de nourriture. Horid et Aman, il a fait descendre la manne. Samou, ils ont eu faim. Bakalahem et Aeven. Ils ont eu soif. Bakalahem et Aeven, il leur a ouvert le rocher pour que l'eau en sorte. Kafroubo Adat Korar, l'assemblée de Korar s'est rébellée contre lui. A apostasié contre lui, Balaotam Haaretz. Il a fait ouvrir la terre pour qu'elle les absorbe. Vechen Shear Kolaotot, et ainsi pour tous les signes. Ça veut dire que tous les miracles qui ont été faits avaient une raison particulière, mais que la raison n'était pas d'habiliter Moïse en tant que prophète. C'était par toute autre chose qu'il faut que Moïse soit habilité. Ubamehe Minubo, et par quoi et en quoi ont-ils cru en lui? De Mahamad Arsinaï, par ce qui s'est passé au mont du Sinaï. Mahamad Arsinaï, littéralement, c'est une expression habituelle, importante, traditionnelle, il est important d'élucider. Mahamad Arsinaï, ça veut dire l'événement par lequel les Hébreux, Israël, étaient dans le Mahamad, ça veut dire s'est tenu debout, a assisté à quelque chose. Le Mahamad, l'événement du fait d'avoir assisté à ce qui s'est passé au mont Sinaï. Au moment de la révélation elle-même, nous allons le voir. She'enenu ra'u velozar, parce que ce sont nos yeux qui ont vu, et pas quelqu'un d'autre, et pas un étranger. Ça veut dire, la preuve que le prophète était prophète, c'est pas lui qui nous l'a donné, c'est nous qui l'avons eu. Ce sont ceux qui ont assisté à l'événement du Sinaï qui concernait Moïse, qui sont les témoins de ce que Moïse est prophète, et non pas du tout Moïse lui-même, qui, par tel ou tel signe, serait... Parce qu'il faudrait d'abord croire dans le signe pour ensuite croire dans Moïse, comme a dit Maïmonide. Et alors, avant d'aller plus loin, j'ouvre une parenthèse, parce que nous trouvons aussi ce problème dans l'enseignement de Judas Lévi. Lorsque Judas Lévi dit, il y a un consensus de tous les peuples que la révélation a eu lieu en Israël, et eux se rattachent à leur manière, bon c'est un conflit possible, mais se rattachent à leur manière à cette révélation, et c'est cela qui a convaincu le roi des Khazars et l'a mené à devenir juif, mais... Il se réfère aussi donc à ce Mahamad Arsinaï qui est qu'il y a eu 600 000 témoins. Et alors on pourrait objecter, bon, pour la génération du désert qui était là autour du Sinaï, eh bien eux ont été les témoins de ce problème pour eux, mais nous n'y étions pas. Et il y a une réponse possible, mais du point de vue, encore une fois, de l'information traditionnelle déjà, c'est qu'il y a une donnée très importante du Midrash qui dit que même nous, et toutes les générations d'Israël, se sont trouvés par leur âme présente au Sinaï. Et qu'au fond, nous avons quelque chose de l'ordre de cette expérience d'évidence qu'ont eu la génération de nos ancêtres au Sinaï, que nous étions là-bas. Et on a objecté, et les convertis, et même les convertis, leur âme était là-bas. Et d'où venait leur âme? On peut aussi expliquer, c'est un effet chacher asun et haram, que Abraham et Sarah avaient déjà fabriqué ces âmes-là, avant d'engendrer Isaac. Et que toutes ces âmes-là étaient avec celles d'Israël, au Sinaï, au moment du Mahamad Arsinaï. Mais vous comprenez que ça ne peut convaincre que ceux qui ont déjà admis que le Midrash, que ce Midrash fait partie de la Torah et que la Torah est révélée, etc. C'est-à-dire, je cite cela, non pas seulement pour mémoire, mais pour aller jusqu'au bout du raisonnement. En fait, je voudrais, dans cette parenthèse, établir effectivement que nous pouvons, à notre échelle, et en un autre temps que celui du Mahamad Arsinaï lui-même, avoir la même expérience. Et c'est cette expérience-là que, effectivement, qui est l'expérience de base de la Kabbalah. C'est-à-dire que dans l'étude du texte où il y a la trace de cet événement, c'est-à-dire le texte de la Torah, il y a, dans l'étude même, il y a expérience de ce qu'a, du même ordre de ce qu'a été la vision de la vérité par les témoins au Sinaï de la génération du Mahamad Arsinaï. Il y a une certaine manière d'avoir dans l'étude expérience de ce qu'a été la révélation au Sinaï, par rapport à tel ou tel point de ce dont le tel parle. À un certain moment de l'étude, on voit que c'est l'absolu qui se révèle, et cette expérience-là, c'est l'expérience kabbaliste. C'est-à-dire que tant qu'on n'arrive pas au niveau de l'expérience kabbaliste, alors on ne peut pas ne pas croire qu'il y a quelque chose d'important dans ce texte que l'on étudie, mais c'est croire. Mais plus loin que cela, alors on voit comme phénomène d'évidence qui s'impose à l'expérience, c'est une sorte de rémanence de mémoire qui nous revient du Sinaï à ce moment-là, au moment du Talmud Torah, lorsqu'on voit qu'effectivement il y a là l'absolu qui parle, alors on a expérience de ce genre. Et ce n'est pas du tout le maître qui m'a appris, Moïse, qui me donne le signe, c'est moi qui étudie, qui ai le signe et qui suis le témoin que le maître est un maître. C'est l'inverse. Oui. De la même manière que les Hébreux au Sinaï étaient eux les témoins que Moïse était vraiment prophète. De la même manière dans l'étude, c'est celui qui étudie qui sera le témoin de la vérité du texte, et non pas l'inverse. Lorsqu'il arrive à ce stade où il est enseigné par le texte, et non pas l'inverse, puisque la méthode exégétique occidentale, c'est d'apprendre quelque chose au texte, hein, de feindre que le texte ne dit rien, si c'était pas moi qui mettais quelque chose dedans, enfin, l'auberge espagnole, d'être plus intelligent que le texte, c'est ça l'objet universitaire. Faire une thèse, sûr. Mais est-ce que ça suffisait pas ce que Kant a dit pour que moi je me permette de dire mieux que Kant dans Kant, n'est-ce pas? Yes, Balou, en fait, comment dire, il y a un servicieux dans ce problème. Bon, bien sûr, c'est très bien d'entendre, de prendre connaissance de tout ce qu'on peut dire après Kant de ce qu'on a dit, à condition que le postulat soit que c'est Kant qui a dit cela, à la manière d'un tel, et pas l'inverse, n'est-ce pas ? À la manière du thésar, c'est comme ça qu'on dit, mais pas l'inverse. Pas. Effectivement, c'est ce que nous avons comme expérience d'abord dans la rencontre de la Gemara. N'importe quelle pensée humaine peut arriver à maîtriser un texte. Ce texte-là nous maîtrise, nous. C'est tout à fait différent. Donc, on arrive à un certain moment où la première chose que l'on sait, mais c'est vrai, c'est qu'on ne peut pas comprendre si le texte ne parle pas. Enfin, vous avez un petit peu échantillon, peut-être, hier, et encore, on n'a vraiment pas eu le temps de... Il aurait fallu s'arrêter sur trois mots. Peut-être trop vite. Et, ou alors, on voit, à partir d'un certain moment, que le rocher s'ouvre, et que l'eau coule, et que c'est vraiment un moment de Mahamad Arsinaï. C'est l'objectif de de l'étude dans toutes les yeshivot. Là où on arrive, il y a Kabbalah. Vous comprenez le problème. Et et tant qu'on n'y arrive pas, eh bien, il y a cet effort qui s'appelle Talmud Torah, mais qui est encore enveloppé à l'intérieur de l'adhésion. Mais lorsque ce phénomène d'évidence apparaît, parce qu'apparaît en même temps la structure même de la vérité qui s'exprime dans telle ou telle donnée de connaissance dans le texte, alors apparaît ce phénomène. Vous savez, je vous l'avais cité sous une autre forme, dimanche matin, que lorsqu'apparaît dans l'étude ce que l'on appelle vraiment un chidouche, c'est-à-dire que, quelles que soient toutes les possibilités de l'hypothèse par la raison la plus forte appliquée à un texte, il est apparu qu'on a compris quelque chose de nouveau, de radicalement nouveau, chidouche. Et on était là en train d'étudier dans le Beta Midrash, et on a compris quelque chose de nouveau, et on ne sait pas qui l'a dit, puisqu'on étudie ensemble. Alors on dit, c'est Eliyahu Hanavi qui a parlé. Et on dit, c'est Tana de Be'Eliyahu. On a appris à l'école d'Élie le prophète. Et où était cette école d'Élie le prophète? Elle est partout où apparaît le chidouche. Est-ce que vous comprenez le problème? Et c'est la règle que nos maîtres nous donnent. Lorsqu'on finit une étude, et qu'on s'est aperçu qu'on a appris quelque chose de nouveau, c'est-à-dire quelque chose de nouveau qui ne peut être dans aucun autre livre, ou qui ne peut être dans aucune autre hypothèse, que c'est vraiment chidouche gamour, et on se demande, mais qui a dit ça? On ne sait plus. C'est pas toi qui as dit? Non, c'est pas moi. Peut-être c'est toi. Non, c'est pas moi. Alors qui? C'est Élie le prophète. Voilà comment ça va. C'est-à-dire, c'est le phénomène de Kabbalah. Et lui, grâce à Dieu, enfin, et à Élie le prophète, nous expérimentons cela, vraiment, dans le Limoud. Ça veut dire que lorsqu'on est en train d'étudier, vraiment, alors on est au pied du Sinaï, dans cet événement-là. Et c'est pourquoi la Gemara dit En Beta Midrash Belo Chidouche. Il n'y a pas de Beta Midrash sans Chidouche. Un jour, j'ai demandé, j'étais jeune, j'avais osé poser des questions de ce genre. Puis il dit, mais il y a des Beta Midrash sans Chidouche. Mon maître m'a répondu, c'est que ce n'est pas des Beta Midrash. Vous voyez, s'il n'y a pas de Chidouche, c'est que ce n'est pas un Beta Midrash. Alors, revenons à notre texte. Ça veut dire Enenu Ra'u Velo Zar. Ce sont nos yeux qui ont vu et pas un étranger. Pas quelqu'un d'autre qui vient nous donner un témoignage d'autrui. Ce sont nos oreilles qui ont écouté, qui ont entendu, et pas quelqu'un d'autre. Haesh ve'akolot ve'alapidim, le feu, les voix et les éclairs. Ve'hu nigash el ha'arafel ve'akol medaber elav. Et lui, s'approchant de ha'arafel, c'est le nuage, la nuée, comment traduire ça? La fumée. Enfin, il y avait quelque part un endroit dans le Sinaï où la voix qui parlait était entourée d'opacité, de nuées, de nuages, de fumée. Et puis, tout le peuple a vu Moïse s'approcher de cet endroit et y entrer vers Kolmedaberelav et entendre la voix parler à Moïse. Ça veut dire qu'il y a eu la preuve, le témoignage, que ce n'était pas une voix intérieure qui parlait dans Moïse, ça voulait dire la voix d'un Moïse philosophe, mais que le peuple qui assistait là a entendu une voix objective parlant à Moïse. Et cet événement-là a fait le consensus d'Israël comme société par rapport à son livre, par rapport au livre de Moïse. La manière dont Israël est relié au livre de Moïse est différente de nature de la manière dont n'importe quelle école est reliée au livre de telle ou telle école, que ce soit une école philosophique ou que ce soit telle ou telle confession religieuse qui a un livre de base. Et ce consensus vient de ce que il y a eu expérience que ce que Moïse disait était la névoie, la parole venant d'une voix autre que celle de l'identité des hommes qui se trouvaient présents, et qu'il y a eu moment exceptionnel de cette expérience. Et cela s'est traduit, comme je disais tout à l'heure, transmis par la mémoire. La fidélité à une tradition, c'est une mémoire. Bien entendu, il faut de l'intelligence et une intelligence considérable pour comprendre cette mémoire, mais la mémoire est première. Et cette mémoire elle-même n'aurait pas suffi si elle n'était pas identifiée de nouveau par ce phénomène permanent de l'étude contemporaine, qui consiste à entrer dans le texte et littéralement le faire éclater pour qu'il parle. Et à partir du moment où il parle, alors on sait beaucoup plus qu'on croit que... Et voilà à peu près le problème. Et ils entendaient Hakol Medaberela, la voix parlant à lui, Moïse, et à nous, Shomim. Et c'est nous qui entendions Moshe, Moshe, Lech Emor Lahem, Kar Vekar. Moïse, Moïse, va leur dire ceci et ceci. C'est-à-dire, Moïse était donc arrivé à cette capacité d'identité qui lui permettait de supporter la présence de celui qui parlait. Les autres ne pouvaient pas encore supporter la présence parce que leur corps n'était pas, leur personne n'était pas encore capable de la supporter. C'est pourquoi ils étaient loin, mais la voix était suffisamment forte pour qu'ils entendent que celui qui devait leur parler à eux, mais eux ne pouvaient pas être présents parce qu'ils n'auraient pas pu supporter, alors ils étaient loin, que celui qui devait leur parler à eux a parlé à Moïse, parce que lui, Moïse, était déjà capable anthropologiquement d'être Navi et d'être en présence à côté de cette voix qui parle. Et Vechen hu omer panim befanim diber Hashem imachem. C'est ce que dit le verset 4 du chapitre 5 du Deutéronome. Panim befanim diber Hashem imachem. Face à face, Dieu a parlé avec vous. Face à face, ça veut dire vous présent. En votre présence, Dieu a parlé avec vous. Et j'insiste de nouveau sur ce fait qu'il n'y a pas là un acte de foi, d'ordre théologique seulement, que si un Dieu existe, alors donc il a dû parler, peut-être il y a des prophètes, et que je crois parfois que peut-être, donc sûrement il y a des prophètes, du point de vue de ce raisonnement de théologie, mais qu'il y a eu d'abord un événement historique d'une parole qui vient d'ailleurs que le monde de l'homme, s'adressant à l'homme, et qui a pu le faire parce qu'il y avait un homme déjà capable d'entendre cela et d'être présent, c'est-à-dire Moïse, et à partir de cet événement, tout ce qui a été dit dans ce livre qui nous vient de cet homme est appelé la prophétie, et non pas l'inverse. C'est-à-dire, premièrement, il y a l'événement historique, et après, il y a eu la croyance. Est-ce que c'est bien clair? C'est vraiment l'inverse dans ce processus. Venehemar, lo et abotenu kara atashem et averit azot, ce est le verset du chapitre 3 dans le Deutéronome dit, le verset 3 du même chapitre 5 dans le Deutéronome dit, et ce n'est pas avec nos pères seulement que...